Les matins de France Culture, Quentin l'a fait.
Alors que le Festival du Livre de Paris s'ouvrira ce vendredi, retour ce matin sur le secteur de l'édition, son état, sa restructuration, ses agencements et réagencements, sur ses perspectives aussi de transformation. Pour en parler, deux invités ce matin. Denis Oliven, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président d'Editis depuis novembre dernier. Vous êtes également président du conseil de surveillance du groupe de médias CMI France. À vos côtés, Muriel Beyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice et directrice des éditions de l'Observatoire et directrice générale adjointe du groupe Humanzis. Et pour commencer, dans cette émission, on va évoquer beaucoup de termes. On va parler de rentabilité, de biens culturels, de concurrence, de rachat. Est-ce que cependant, pour vous, Denis Oliven, pour commencer, le livre reste un bien à part, une œuvre à part entière?
Bah évidemment. C'est même un bien tout à fait, un bien culturel, un support d'une œuvre de l'esprit qui est sans exemple, parce que figurez-vous que c'est le plus vieux. Dans sa forme actuelle, là, telle qu'on le voit l'objet, il date du Codex, c'est-à-dire du Moyen-Âge. Dans sa forme imprimée, il date de Gutenberg, du XVe siècle. Donc il a traversé toute la révolution technique, toute la révolution culturelle, toute la révolution politique, et il est toujours là, support de plaisir, de divertissement. C'est l'un des meilleurs amis de l'homme, et ça demeure.
Et d'ailleurs, émerveillé par l'objet livre.
Ah oui, chaque soir quand je le lis, chaque matin quand je le vois dans ma bibliothèque, et quand j'arrive chez Editis ou dans une librairie.
Muriel Beyer, est-ce que pour vous aussi, malgré le fait que vous soyez dirigeante de maison d'édition, que vous occupiez un poste important dans un grand groupe d'édition, le livre reste une œuvre d'abord et avant tout pour vous-même ?
Oui, bien sûr, pour moi personnellement, évidemment, mais ce que je trouve fantastique, c'est ce que disait Denis, c'est ça a traversé des siècles et des siècles, et ce qui fait la différence entre un bon livre et un grand livre, c'est le livre qui traverse les siècles. Parce que ce qu'il faudrait dire à nos auditeurs, j'irai à tout le monde et particulièrement aux jeunes, on en parlera, c'est que les grandes œuvres, elles nous parlent toujours de notre monde, quel qu'il soit. Voilà. Et je crois que ça, c'est absolument incontournable. Et le seul, j'aime pas le terme, produit culturel qui offre ça, c'est le livre, en fait.
Alors commençons peut-être par lever un paradoxe. La lecture se porte mal, les lecteurs en tout cas sont a priori de moins en moins nombreux. Je parle de l'objet livre tel qu'on le connaît, l'objet livre traditionnel. Et pourtant le secteur de l'édition, lui, reste solide. Comment est-ce qu'on l'explique, Denis Oliven ?
D'abord, c'est un point de vue relatif parce que 90% des Français lisent au moins un livre par an. C'est incroyable. Et les gros lecteurs, c'est près de 25%, c'est un quart des Français. Donc il n'y a pas tellement de biens culturels qui aient un tel usage, qui aient une telle popularité. Ouais, on pourrait expliquer pourquoi d'ailleurs. Et même là, je voyais, on s'est inquiété de la baisse de la lecture des jeunes. Ce qui est vrai, elle baisse, mais elle demeure quand même avec des inégalités entre les garçons et les filles, et surtout entre les classes sociales. Mais elle demeure quand même très importante. Donc,
elle demeure forte, mais pour qu'un secteur se porte bien, ce qui est important, on va dire, c'est le tendanciel.
Oui, mais le tendanciel, finalement, on voit, c'est d'ailleurs assez frappant, qu'il y a une espèce de la tendance de fond du livre depuis quelques années, c'est une légère décroissance en volume et une légère amélioration en valeur. Donc au total, il est plat, il est stable, mais à un très haut niveau. Vous savez que c'est la première industrie culturelle en France. C'est bien de loin devant la musique, bien loin devant tous les autres, bien loin devant le cinéma. Donc c'est quand même un objet de consommation, c'est l'objet de la démocratisation de l'accès à la culture, le livre. Et d'ailleurs, parce que cet objet lui-même est extraordinairement pratique. Vous songez qu'il est individuel, il est délinéarisé. Quand vous commencez, vous l'arrêtez quand vous voulez. Il est nomade, vous le transportez avec vous. Donc toutes les caractéristiques qu'on recherche dans la société contemporaine, le livre les a depuis 600 ou 700 ans. Donc non, je pense que bien sûr on doit s'inquiéter, on pourra peut-être en reparler, de la baisse de la lecture, mais le niveau moyen de consommation du livre est encore extraordinairement important.
Muriel Beyer, vous êtes d'accord avec ce diagnostic, oui, notamment sur l'état du secteur en général ?
Oui, bien sûr, parce que ce qui est remarquable, c'est que moi, quand je suis rentrée dans l'édition, il y avait déjà toutes les tendances en disant le livre, de toute façon, c'est fini. Voilà, quand le livre numérique est arrivé, le papier s'est terminé. Voilà, il y a toujours ces grandes tendances-là pour dire que quelque chose va se terminer. Et on remarque vraiment un fait, et Denis a raison, quand même une grande stabilité, une petite baisse. Mais voilà, après, il y a des études études qui sont faites selon les tranches d'âge, selon les classes sociales. Il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. Mais si vous regardez l'ensemble, c'est assez stable et c'est assez incroyable d'ailleurs.
Est-ce que la lecture, au-delà des supports papier, je pense notamment évidemment au support numérique, permet de pallier en partie la baisse du livre-objet, Muriel Beyer?
Pas tellement. C'est-à-dire que le livre numérique, en fait, bon, il existe, hein, voilà, mais je ne pense pas que ça ait tellement entamé. En tous les cas, le papier est très très dominant en France. Et ce qu'on constate beaucoup, c'est que les très grands lecteurs continuent à lire du papier, bien sûr, ont aussi du numérique. Parce que souvent, le numérique, c'est des très grands lecteurs, en fait, qui ont les deux, finalement. Et on se rend compte qu'au fond, le livre numérique n'a pas tellement impacté les choses et n'a pas comblé la légère baisse, en fait, du secteur du livre.
Daniel Yven.
Une énorme différence par rapport à d'autres secteurs, par exemple à la musique ou à la presse, dans lequel la révolution numérique s'est traduite par un choc extraordinairement violent, une baisse des ventes et puis une reprise douce par la consommation numérique. Le livre, qui existe donc depuis si longtemps, a traversé la révolution numérique calmement. Il y a une part de la consommation du livre qui est en numérique, de l'ordre de 10%, mais l'objet résiste, il n'a pas du tout subi l'effondrement qu'ont connu, par exemple, le disque ou la presse papier. Donc c'est vraiment un objet rare. Sachez, rappelez-vous, qu'il se vend chaque année en France 450 millions de livres, 7 livres par habitant. C'est extraordinaire, je trouve que c'est... Vous disiez tout à l'heure, on vous disait qu'on s'émerveille devant la lecture, mais émerveillons-nous aussi devant l'objet livre.
Et dans le même temps, Denis Oliven, dans Ouest France, vous faites un constat marquant. Je vous cite, en France, la production de livres a été multipliée par 2 en 10 ans, mais le tirage moyen, lui, a été divisé par 2 dans le même temps. Fin de citation. Donc, comment est-ce que vous analysez ça?
Ça, c'est plutôt du côté de l'offre que de la demande. C'est la stratégie des éditeurs que je ne la conteste pas. Je me garderai bien de juger de ce que mes collègues et confrères ont fait. Mais de fait, j'observe qu'on a en effet multiplié par 2 le nombre des livres en 10 ans et divisé par 2 leur tirage. Donc, au fond, le volume reste le même. C'est un jeu à somme nulle. Pour Editis, je ne parle que pour moi, je me garderai bien de décider pour les autres. Nous sommes déterminés à réduire cette production parce que nous pensons qu'il est plus efficace de nous intéresser davantage, mieux, à chacun de nos auteurs, à chacun de nos livres, et à pousser mieux leur vente qu'à multiplier les petits chevaux sur la ligne de départ. Et ça, c'est notre choix, nous.
Alors, votre choix, vous, justement, on va tenter de le comprendre. Réduire la production, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie mieux sélectionner un peu plus encore
les manuscrits? Oui, ça veut dire que, pour le dire d'une formule, que chaque éditeur doit ne publier que des livres qui comptent. Mais comptent, ça peut être beaucoup de choses. Compte, c'est pas forcément compte en termes de vente. Compte, c'est parce que c'est un livre décisif. Compte, c'est parce que c'est un jeune auteur et qu'on croit en son avenir, donc on investit en lui. Donc compte, ça veut pas dire idée idiote qu'on se concentrerait sur les best-sellers. Ça n'existe pas. C'est un monde de prototypes. On ne sait pas qui va être un best-seller. Donc compte, c'est se dire de chacun des livres, est-ce que celui-là, il est vraiment essentiel pour moi? Est-ce que je meurs d'envie de le publier? Voilà. Si chacun de nos éditeurs fait ça, on sera légèrement plus sélectif et je pense qu'on se battra mieux pour nos auteurs, parce qu'il me semble que l'auteur doit être au centre, doit être sacré. C'est le sacre des auteurs, doit être la règle chez Editis. Voilà. Mais ça, c'est notre stratégie à nous. Je ne me permets pas de juger de ce que font les autres.
Muriel Beyer, sans juger non plus la stratégie d'Editis, est-ce que vous êtes déjà...
J'ai passé 20 ans quand même, donc je connais un peu.
Mais vous avez créé maintenant votre propre maison d'édition, les éditions de l'Observatoire. Est-ce que déjà vous êtes d'accord sur le diagnostic? En France, il y a trop de livres parus.
Oui, il y a trop de livres parus. Alors après, une fois qu'on a dit ça, c'est très difficile de juger, parce que ce que disait Denis est très juste, c'est chaque éditeur a sa propre intuition. Elle peut être vertueuse, c'est-à-dire le lancement d'un jeune auteur, on y croit, etc. Elle peut être beaucoup plus commerciale aussi, il ne faut quand même pas se leurrer, en se disant, ben voilà, il y a un marché pour ce type de livre. Bon, moi, le choix que j'ai fait, évidemment, dans le groupe que je dirige, je ne vais pas vous dire que les PUFs...
Les presses universitaires de France
éditent trop, c'est un autre type de marché. Mais si on prend le cas de l'Observatoire, moi j'ai toujours réduit. Enfin, j'ai pas... En tous les cas, je ne publie pas plus. Prenons par exemple le cas des rentrées littéraires. J'ai décidé de ne jamais publier plus de 4 livres par rentrée littéraire. Pour quelle raison? Parce qu'on ne peut pas s'occuper vraiment bien de plus de 4 livres. Parce que ça, ce n'est pas vrai. Donc, voilà. Donc, on réduit. Après, c'est l'intuition. Je dirais aussi que ça dépend beaucoup des secteurs. Quand on dit que les tirages baissent, globalement, ça dépend quel secteur. Vous avez tout un tas de secteurs où vous avez bon, des nouveaux, la romance, la dark romance, etc., etc. Ce que je ne fais pas, donc je ne vais pas me permettre d'en parler. Mais quand on fait des essais de débat d'idées, évidemment que les tirages ne sont pas des tirages très importants. Mais je dirais que c'est un peu la tendance générale de beaucoup de secteurs. C'est-à-dire le débat d'idées... Eh bien, voilà, je vais peut-être être un peu cash, mais il est un peu réduit quand même.
Et il est vrai que, par ailleurs, depuis le début de cet échange, on parle du livre en général, mais quand on regarde les sous-secteurs avec précision, les inégalités, la diversité des ventes sont quand même flagrantes. Le manga, la bande dessinée, le scolaire fonctionnent extrêmement bien. Le roman, beaucoup moins, Denis Oliven.
Oui, enfin là aussi, ça dépend de quel roman, mais c'est pas complètement anormal, parce que... on touche à travers le manga et la bande dessinée des publics plus jeunes notamment, dont on a vu récemment qu'ils étaient probablement moins accoutumés à la lecture de livres grand format traditionnels, encore qu'en vieillissant, on y vient. Donc c'est pas complètement anormal qu'il y ait des segments de lecteurs différents. Je trouve que globalement, ça c'est là encore un point de vue de novice, je trouve que nous, notamment les médias, puisque je dirige un groupe de presse, on fait pas un effort monstrueux, on s'est un peu, comment dirais-je, snobidardisé dans nos choix de lecture, on fait pas tellement d'efforts pour promouvoir des livres qui sont comme une marche d'entrée dans la lecture, des livres populaires, des livres plus faciles d'accès, des livres qui parlent peut-être plus à la jeunesse, des livres peut-être qui sont plus émouvants. On a, à mesure qu'on observait les évolutions du marché que vous venez d'évoquer, c'est comme si les gens qui parlent des livres s'étaient resserrés sur la fine pointe de la lecture élitiste. Et je pense que c'est une erreur. Donc voilà, il y a sans doute des efforts à faire pour que on passe très naturellement par étapes, par glissement progressif vers le plaisir de livres faciles d'accès, de mangas, de bandes dessinées, de livres de littérature populaire. Je rappelle juste pour mémoire que la littérature populaire, c'est pas ignoble. Hein. Aujourd'hui, on vénère Dumas ou Eugène Sue.
Qui était considéré comme de la lecture populaire.
Qui était considéré comme absolument détestable à l'époque où ils publiaient leurs livres. Donc hein, le jugement du temps se modifie sur les écrivains. Mais en tout cas, on devrait avoir une conception plus ouverte de l'accès à la lecture, plus stratégique de l'accès à la lecture et pousser des livres dont on sait qu'ils sont plus aisément accessibles et qui donnent le goût ensuite de la lecture, qui font découvrir à des gens que, comme on le disait tout à l'heure, le livre est le meilleur ami de l'homme, celui par lequel vous apprenez à vivre, à aimer, vous apprenez la vie.
On va poursuivre cette discussion avec vous deux, Denis Oliven et Muriel Beyer, à partir de 8h20 et dans quelques instants, dans quelques secondes même, je vais donner la parole à un grand lecteur, surtout à un grand écrivain.
6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait.
Avec vous Bernard Werber, bonjour.
Bonjour Quentin.
De régler votre casque puisque c'est l'heure de votre billet. Et aujourd'hui Bernard, vous nous parlez de l'appauvrissement des chansons en vocabulaire et en mélodie.
Bien oui Quentin, on va rester dans la culture. C'est un article publié la semaine dernière dans la revue Scientific Reports qui a attiré mon attention. Cet article évoque une étude effectuée par Eva Zangerle, chercheuse à l'université d'Innsbruck en Autriche, sur 12 000 chansons de langue anglaise sorties entre 1980 et 2020. Et la conclusion de cette étude est que les morceaux sont de plus en plus simplifiés, répétitifs et surtout négatifs. Pour cette recherche, 5 genres musicaux différents ont été analysés. La pop, le R&B, le rap, le rock, la country. Et les 5 styles sont touchés par cet appauvrissement en qualité des paroles et en complexité des mélodies. Mais c'est dans le rap que cette diminution de qualité est la plus marquée. Et dans la musique country que par contre, il y a encore une résistance. Eva Zangerle déclare « Les paroles sont devenues plus simples, les idées plus faciles à comprendre, le vocabulaire et la complexité lexicale diminuent, même la structure de la chanson s'est simplifiée pour privilégier la répétition des refrains et des couplets. »
Alors Bernard, comment peut-on expliquer cette tendance dans la musique ?
Selon les chercheurs autrichiens, l'une des explications de cet appauvrissement pourrait être la nouvelle habitude d'écouter les chansons en fond sonore et de ne plus prendre un temps privilégié pour ne faire qu'écouter la mélodie et les paroles. Mais il y a aussi l'envie de la part des créateurs de toucher un plus large public et il est certain que plus les paroles sont simples, plus elles sont compréhensibles par la multitude. Et selon Eva Zangerlé, il n'y a pas que le vocabulaire et la structure des chansons qui a changé. Il y a aussi les émotions transmises par les paroles. Elles sont de plus en plus négatives. Les thèmes sont la colère, la révolte, la tristesse et le dégoût. Et ça a pris nettement le dessus sur les émotions positives comme la joie ou l'amour. De même, les paroles sont de plus en plus déclinées. À la première personne du singulier, c'est le « je » qui est le plus présent dans les couplets.
Mais il est logique, Bernard, que les chansons reflètent les préoccupations des auditeurs qui sont différentes en 2020 par rapport à celles qui étaient dans l'air il y a 40 ans, non ?
Ah oui, c'est l'œuf et la poule. Est-ce que parce que la société est négative que les paroles sont négatives, ou est-ce que parce que les chansons transmettent des émotions sombres que cela rend les auditeurs encore plus rageux ? Quoi qu'il en soit, les producteurs ne veulent pas prendre le risque de sortir des courants en vogue et ils ne font qu'amplifier le phénomène en privilégiant les artistes aux paroles les plus simples, les plus répétitives, les plus négatives et les plus narcissiques.
Alors le phénomène est-il irréversible ?
Bien oui, Quentin, je le crains, en tout cas dans le court terme. Dans le domaine du rock'n'roll, les amateurs sont encore, du coup, plus nostalgiques des années 70. Et je suis moi-même fan des groupes de rock progressifs de type Genesis, Yes, Pink Floyd. Et je dois avouer que c'est en partie pour lire la complexité des paroles que j'ai appris l'anglais. Je vais probablement passer pour un vieux baba has-been, mais à l'époque, il y avait des pochettes. Il y avait des pochettes qui étaient de vrais tableaux. Et je passais mon temps à les admirer, à lire les paroles et à essayer de traduire les paroles tout en écoutant les albums au casque pour bien entendre tous les effets stéréo. Mais au-delà de mon expérience personnelle, je crois que la musique et les chansons sont en train de devenir un enjeu de société. Et j'en veux pour preuve que le récent débat sur Aya Nakamura, qui chante Piaf pour les JO, ou la loi annoncée pas plus tard qu'hier en Tchétchénie, qui interdit aux artistes de faire du rock ou de la musique techno. Et pour conclure, je citerai Bob Marley, la musique peut rendre les hommes libres, et la musique peut rendre les hommes libres, et j'ajouterai, mais aussi la musique peut rendre toute une société joyeuse ou triste.
Autant que le livre et le secteur de l'édition dont nous parlons aujourd'hui, en présence de Denis Oliven et Muriel Beyer. Merci beaucoup pour ce billet. Il est 8h sur France Culture.
6h30, 9h. Les matins de France Culture, Quentin l'a fait.
Suite de notre discussion ce matin sur l'état du secteur de l'édition, ses perspectives, ses transformations, en présence de Denis Oliven, président d'Editis depuis novembre dernier. Il est également président du conseil de surveillance du groupe de médias CMI France. À ses côtés, Muriel Beyer, elle est fondatrice et directrice des éditions de l'Observatoire et directrice générale adjointe du groupe Humansis. Et on l'a mentionné, le salon du livre, le festival du livre de Paris débutera ce vendredi. Il y a des rapports houleux depuis quelques années entre ce salon du livre et les éditeurs. Je le rappelle, en 2010, plusieurs éditeurs réduisent leur participation, c'est le cas d'Hachette et de La Martinière, à ce festival, à ce salon, tandis que d'autres renoncent, c'est le cas de Bayard. En 2015, le groupe Hachette Livre, c'est Grasset, Fayard, Calman Lévy, je le rappelle également, boycotte le salon, estimant que son coût est trop élevé au regard des retombées économiques. En 2019, le groupe Madrigal, c'est Gallimard, c'est Flammarion, c'est POL, boude le rendez-vous en plus de Hachette. Et en 2022, ce sont les petits éditeurs, les éditeurs indépendants qui marquent leur désapprobation quant à la nouvelle formule du salon. Quel est aujourd'hui l'état des relations alors entre les éditeurs, vos maisons d'édition peut-être, Muriel Beyer, et ce salon ?
Alors, moi j'ai toujours été partisane d'être présente au salon. Je crois que c'est un grand rendez-vous, ça donne une vraie visibilité au secteur, c'est quand même les gens qui arrivent dans ce salon quand même côtoient, voient des auteurs, voient des livres, donc tout ça c'est pour moi c'est toujours été positif. Après, je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions justement sur le coût du salon et le retour financier. Donc si vous considérez que le salon c'est là pour vendre des livres et que le salon est rentable pour l'éditeur, la réponse est pas tellement oui, c'est pas le sujet. Je crois que c'est une visibilité, c'est une rencontre autour du livre, autour des auteurs, et je crois qu'il faut le prendre comme ça. Et d'ailleurs, chez nous par exemple, c'est dans le budget événementiel et c'est pas dans le budget commercial, donc ça veut un peu tout dire. C'est-à-dire c'est vraiment la visibilité, j'étais plutôt pour qu'on soit présente. Voilà, ça c'était notre position, voilà. Alors pour certaines maisons du groupe, la littérature générale, la littérature jeunesse, évidemment pas l'universitaire ou les maisons trop ciblées, voilà.
Denis Oliven, Editis, c'est en gros une cinquantaine de maisons d'édition. J'imagine que chacune d'entre elles a, quant au festival, quant à ce salon du livre, un rapport particulier ?
Écoutez, moi, j'arrive dans le secteur, donc j'ai pas l'antériorité. Je suis un lecteur de très très longue date. à peu près, pas tout à fait mon âge, mais presque.
Vous avez arpenté vous-même le Salon du Livre, sans doute.
Et j'ai beaucoup fréquenté le Salon du Livre, comme lecteur, comme auteur, souvent d'ailleurs avec grand plaisir comme lecteur, parce que c'était, quand je me souviens très bien, de l'émotion que ça suscitait quand j'avais 17 ou 18 ans, la possibilité de rencontrer des écrivains que j'aimais, c'était fantastique. Et donc je crois qu'après les difficultés que vous avez rappelées, les turbulences par lesquelles ce salon est passé depuis l'an dernier, j'ai l'impression que d'abord le lieu au centre de Paris, la qualité du lieu, la façon dont ça a été organisé, recrée du consensus parmi les éditeurs, grâce soit rendue au président du syndicat de l'édition, Vincent Montagne, il a réussi à faire renaître ce salon, et j'ai l'impression que tout le monde en est à peu près heureux désormais. Moi, j'y étais l'an dernier, alors que j'étais pas encore à Editis, mais on était candidat au rachat d'Editis, et je dois dire que j'avais été frappé par la renaissance de ce salon, qui renouait un peu avec l'ambiance que j'avais connue il y a une trentaine d'années, festive. C'est quand même toujours intéressant de voir la ferveur des lecteurs qui rencontrent leurs auteurs, la qualité des échanges qui s'y nouent. Et ça, si l'occasion se présente de le faire, je pense qu'on serait bête de passer à côté.
Vous venez de le dire, Denis Oliven, vous êtes un récent président d'Editis, puisque vous êtes à la tête de ce groupe depuis novembre dernier, un groupe qui a été racheté par un homme d'affaires, Daniel Kretinsky. Est-ce que c'est compliqué, difficile d'assurer l'indépendance éditoriale de ce groupe et d'en maintenir, plus avant même, je dirais, la cohérence parmi la cinquantaine des maisons d'édition que vous dirigez?
Nous, on s'est placé dès le départ comme on le fait dans la presse. C'est assez simple, hein. On a un historique. On peut voir depuis 5 ans ce qu'on a fait dans la presse, dans lesquels les titres dont nous disposons disposent d'une liberté, d'une indépendance absolue. Donc, on est entré dans le groupe d'Editis en déclarant dès le départ que nous placions notre action sous le signe de l'indépendance éditoriale, du pluralisme des goûts et des maisons, pour répondre à votre question de la cohérence, du pluralisme. Oui, quand vous avez 56 maisons, elles peuvent pas toutes se ressembler. Elles doivent avoir une certaine autonomie, une identité propre, et donc il faut qu'on la respecte. Et par ailleurs, sous le signe de l'innovation. Donc l'indépendance, non, c'est une déclaration de principe pour nous. Et il me semble que c'est même impossible de faire autrement. Parce que si un éditeur, c'est comme la presse, si un éditeur publie en fonction des attentes de ceci, de cela, il va louper sa vocation qui est de publier en fonction de ses auteurs et des lecteurs.
On voit dans certains groupes, pardonnez-moi, que c'est possible de faire autrement. On voit notamment dans le groupe Hachette qu'une ligne éditoriale est partiellement définie en fonction des intérêts de son dirigeant.
Je me garderai bien de commenter ce qui se passe dans le groupe Hachette, mais non, je trouve tout à fait légitime et possible qu'on ait une ligne éditoriale. Pourquoi pas? C'est le droit strict du propriétaire d'une maison d'édition. C'est pas notre choix à nous. Nous, on a autant de lignes éditoriales qu'on a de maisons. La seule chose que nous souhaitons, c'est que ces maisons respectent la loi, évidemment. Ça me paraît évident. Donc, pas de diffamation, pas d'injure, pas d'incitation au racisme. Enfin, tout ce qui est prohibé par la loi respectent tout de même les valeurs démocratiques. C'est la seule ligne éditoriale ou politique, c'est le respect des valeurs démocratiques, et qu'elle soit rigoureuse, qu'on raconte pas n'importe quoi, qu'on fasse des livres qui sont sérieux sur le fond. Le ton peut être impertinent.
Si voilà. Des hommes politiques du Rassemblement National voulaient publier au sein de votre groupe, par exemple, s'ils respectaient la loi, s'ils respectaient les grandes valeurs démocratiques, s'ils respectaient aussi certaines valeurs sur le fond de ce qu'ils expriment, vous pourriez les publier?
Amoureux de la liberté, vous ne trouverez pas en moi l'avocat de l'interdiction de publier de qui que ce soit, et notamment pas des gens du Front National. Tout le monde a le droit de publier sous la réserve du respect de la loi. Maintenant, est-ce que dans les maisons d'Editis, ces publications pourraient trouver à s'installer de manière aimable? Je vois pas très bien dans nos maisons où. Donc c'est plutôt que nos maisons s'y prêtent mal. Mais en revanche, je trouve absolument normal que Monsieur Bardella, puisque c'est lui dont on parle en ce moment, puisse publier. Ce serait incroyable que dans une démocratie avancée, un homme politique n'ait pas la possibilité de publier son livre. Je le vois pas chez Editis, mais parce que je vois pas, il va pas être publié à La Découverte, qui est une maison connue pour être d'extrême gauche,
La Découverte,
ou chez Plon, qui est la maison du général de Gaulle et de Churchill. Mais en dehors du... Donc ça, c'est pour Editis. Mais sur le principe, je trouve tout à fait légitime que M. Bardella publie des livres.
Muriel Beyer, est-ce que le rachat, vous, par Vincent Bolloré, de la plus grande maison d'édition, du numéro 1 de l'édition française, vous a inquiété par Vincent Bolloré, ce rachat ?
Non. Ça ne m'a pas inquiété du tout. Je veux dire, bon, voilà, Vincent Bolloré est un homme d'affaires. Ça fait partie de la vie des affaires. Il rachète, il achète le groupe, cet énorme groupe d'édition. Je ne vais pas, moi, faire comme Denis, je ne vais pas commenter. Ça, sincèrement, je dirais qu'à l'heure qu'il est, ça ne me concerne absolument pas. Donc, il rachète. Il faudra voir s'il maintient l'indépendance des maisons, comme le fait Editis. Ça, chaque maison, dépendante de son éditeur. Pour le moment, on ne va pas faire des procès d'intention. L'inquiétude, elle est peut-être chez les éditeurs d'Hachette, mais je n'en fais pas partie.
Votre groupe d'édition, Muriel Beyer, le groupe Humanzis, est à vendre depuis le 2 février dernier, un moment où le secteur se concentre. Est-ce que vous en savez plus sur l'avenir du quatrième groupe d'édition français ?
Non, pas vraiment, parce que d'abord, je tiens à dire que c'est Score qui vend, donc c'est pas moi, je suis une salariée. Donc
Score qui est une entreprise
de réassurance. Et il faut savoir, Humanzis avait été créé par la volonté de son président de l'époque, qui était Denis Kessler, et qui voulait créer un groupe autour de l'idée de la connaissance. Donc notre groupe, qui est beaucoup plus petit qu'Editis, lui n'a pas les mêmes problèmes, puisque chaque maison a une identité propre et on se fait très peu concurrence entre nous, en fait, puisque chaque maison est différente. Donc c'est pas du tout la même chose. Après, à vendre, parce que d'une certaine manière, après c'est le choix de la nouvelle direction de Score. Voilà. On verra bien. Donc on verra bien ce qui se passe. De toute façon, Humanzis est une taille un peu critique. Il est à la fois moyen et donc ces tailles-là sont toujours un petit peu critiques, et Denis Kessler le savait parfaitement, puisqu'il avait totalement décidé de faire évoluer justement la manière de financer ce groupe. C'est-à-dire que Score n'avait pas vocation à rester, selon Denis Kessler, aussi majoritaire.
Denis Oliven, à plusieurs reprises dans des interviews, vous avez exprimé la volonté de augmenter la rentabilité du groupe Editis. C'est selon vous un enjeu majeur pour l'ensemble du groupe. De quelle manière vous pensez opérer ?
C'est un enjeu majeur. Le premier enjeu d'Editis, c'est son rayonnement, son utilité sociale, le fait de publier des bons livres. Editis est un groupe qui publie toutes sortes de livres, qui publie de la littérature générale, des essais, des romans, des illustrés, des livres pratiques, des livres scolaires. C'est l'un des deux plus grands éditeurs scolaires en France, donc la gamme de ce qu'il fait est très large. Mais c'est vrai que sa rentabilité a beaucoup décru au cours des dernières années, des 5 dernières années. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on la réaugmente ? Parce que la rentabilité d'un groupe, il ne s'agit pas d'avoir une rentabilité exceptionnelle, il faut juste que nous ayons la rentabilité moyenne du secteur. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui nous permet d'investir ensuite, d'aller chercher de jeunes auteurs, de prendre des risques sur des auteurs qui n'ont pas encore publié. Donc si nous sommes faiblement rentables, nous ne prenons aucun risque, et si nous ne prenons aucun risque, nous ne nous développons pas.
Pourquoi elle a diminué, cette rentabilité ?
Pour tout un tas de raisons. D'abord, le secteur a connu récemment, en ces dernières années, une augmentation du prix du papier, une augmentation du prix de l'énergie. Tout ça a entraîné une boucle inflationniste. Donc, tout le secteur a souffert et nous avons souffert. Ensuite, Editis a connu des changements d'actionnaires à répétition, a vécu une période d'instabilité parce que il était en vente, mais il fallait qu'il obtienne l'approbation de la Commission européenne, et ça a pris des mois. Donc tout ça est pas très favorable à la quiétude, la sérénité des éditeurs et leur concentration sur leur métier. Donc voilà, on va maintenant, on est là pour longtemps, on est serein, ils le sont aussi, on va pouvoir redonner de l'altitude à la littérature générale, accélérer l'innovation dans le secteur du livre scolaire, poursuivre la modernisation de notre outil de distribution. On a une série de chantiers à accomplir. Mais le premier de ces chantiers, je le redis, c'est remettre les auteurs et les éditeurs au centre de cette maison. Parce que à la fin des fins, ce sont eux pour lesquels nous faisons ce métier. Donc c'est eux qui doivent être le centre de nos préoccupations.
Muriel Beyer, vous avez à l'Observatoire et chez Humaine 6, au-delà des enjeux similaires, on imagine que les défis sont les mêmes, notamment l'augmentation du prix des matières premières, du
papier. Bien sûr, les défis sont exactement les mêmes, bien sûr. Donc je partage tout à fait cette vision et je dois dire que je la partage d'autant plus que si j'ai rejoint ce groupe en quittant Plomb, c'était justement parce que je trouvais que la démarche de Denis Kessler, c'était justement de mettre en avant essentiellement les auteurs et les éditeurs. Donc il y avait une démarche autour de la connaissance et chaque maison devant mettre en avant ses auteurs et ses éditeurs. Donc c'était cette démarche-là qui, je crois, est la démarche d'avenir. C'est exactement comme ça que le secteur peut se maintenir d'une manière pérenne.
Denis Oliven, vous avez mentionné à plusieurs reprises, là aussi dans des interviews publiques, l'usage, le recours augmenté à l'intelligence artificielle. Comment ça se concrétise concrètement, cet usage ?
Vraiment, ça, j'ai vu ça dans la presse, je le vois maintenant dans l'édition. Je pense qu'on est au tout début de quelque chose qui est un tsunami. Ça va être une révolution d'une profondeur abyssale. Et comme chaque fois qu'on est confronté à ça, on peut le mépriser, cette révolution, dangereux, ou la maîtriser. Je crois qu'on va faire le choix, nous, d'essayer de la maîtriser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on peut, l'intelligence artificielle peut être un contributeur pour la correction des livres, pour la traduction, pour l'analyse des données. Enfin, il y a tous les secteurs du jeu de l'édition peuvent être l'objet d'une introduction de l'intelligence artificielle. Simplement, il faut qu'on prenne bien garde, j'ai dit d'une formule pour m'amuser, que l'IA avait deux signifiait deux choses, intelligence artificielle, mais IA, ça veut dire aussi importance des auteurs. Donc, il faut qu'on soumette le progrès technique, technologique de l'intelligence artificielle à nos règles et au respect du droit des auteurs, du travail des éditeurs, du travail des traducteurs. Traduire un livre, ça n'est pas traduire une notice de médicament. C'est pas le même enjeu. Et donc, je pense que jamais l'intelligence artificielle n'aura la sensibilité, la délicatesse qui permettent de traduire un grand livre. Donc on peut l'utiliser, mais c'est pour ça que je dis augmenter. C'est un outil au service et ça augmente la puissance de feu de ceux qui travaillent dans l'édition.
Justement, Muriel Beyer, à ce propos, est-ce que les éditeurs, les correcteurs, les traducteurs doivent s'inquiéter de l'usage du recours à l'intelligence artificielle ?
Je pense que d'abord, dans le mot intelligence artificielle, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup, c'est le mot intelligence. Donc c'est un outil. Je crois que comme tous les outils extrêmement performants, et on n'est qu'au début, il faut pas le nier, il faut pas dire non, pas du tout, ça nous concerne pas. Si, ça nous concerne. Simplement, ça va demander une utilisation intelligente. C'est-à-dire qu'effectivement, la création sera toujours une création humaine, et simplement, il faut savoir l'utiliser. En revanche, ce que je crois, moi, parce que je suis quelqu'un de très positif, c'est que ça va demander aux éditeurs d'être extrêmement vigilants. C'est-à-dire que il va falloir, on le fait, mais je dirais encore plus peut-être qu'on ne le fait, c'est favoriser vraiment la création, l'intelligence humaine et faire très très attention. Je crois que ce qui est menacé par l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on peut appeler la littérature de genre. C'est vrai que je me rappelle dans un salon où je répondais à des questions, où une dame me dit « mais finalement j'aime bien la romance » et par exemple, prenons le cas de la romance, l'intelligence artificielle saura très bien le faire, il y a des codes, et elle me dit « mais au fond, pourquoi voudriez-vous m'interdire de lire ça ? Parce qu'en fait, si c'est une intelligence artificielle, je m'en fiche, moi l'histoire me plaît. » Et ça m'avait beaucoup fait réfléchir, ça. C'est-à-dire que la vraie question qui va se poser, c'est la littérature de genre. Après, la vraie création, ce que j'appelle la création, l'intuition, que ce soit dans les essais, l'intuition, la construction d'une pensée, et dans le roman, le talent littéraire, je dirais que la vraie question qui se pose, l'intelligence artificielle peut faire à la manière de Houellebecq, elle ne fera pas Houellebecq. Voilà, en gros, voilà, c'est ça la vraie question. La littérature de genre, il faut se poser la question.
Denis Oliven, comment vous réagissez à ce témoignage de cette lectrice ? Dans le fond, ce qui compte, c'est plus le livre qu'elle a entre les mains que l'auteur et peut-être même son travail.
Je crois que toute l'histoire de la civilisation montre que les grandes œuvres, que ce soit les œuvres de littérature ou les œuvres de la pensée, les œuvres des essais, viennent d'une rupture, viennent de quelqu'un qui tout à coup pense le monde autrement. Mais c'est vrai aussi de la peinture, de la musique, qui regarde le monde autrement. Or, l'intelligence artificielle, elle est éduquée à partir du passé.
Ça a été fait, bien sûr.
Elle reproduit le passé. Donc sa capacité de rupture, de création...
Elle est nulle, a priori.
Pour l'instant, elle est nulle. Peut-être que ça va changer. Mais donc, je crois qu'il est tout à fait... Je suis pas choqué qu'on aime des textes peu originaux, mais qui vous distraient, pourquoi pas. Il y a une dimension de divertissement. Mais en revanche, je suis totalement persuadé que la poursuite de l'avancée de la civilisation, c'est-à-dire de la création d'œuvres littéraires ou de l'esprit nouvel, passera pas par l'intelligence artificielle, mais par l'intelligence tout court. Ça me paraît assez évident.
L'autre sujet essentiel qui traverse présentement le secteur de l'édition, c'est celui de la rémunération des auteurs. En France, les négociations sur les contrats d'édition engagés avec les représentants des auteurs patinent désormais depuis des mois. Leur demande, l'obtention de 10% du prix de vente de leurs livres. Celle-ci est invariablement rejetée par le syndicat national de l'édition. 10% pour un auteur, est-ce que c'est trop, Muriel Beyer?
Alors, les revendications des auteurs, ça concerne quand même des secteurs, moins la littérature générale que d'autres secteurs. Ça concerne quand même beaucoup la jeunesse, la BD, voilà. Dans le secteur de la littérature générale, on n'a pas trop d'inquiétude parce que de toute façon, nous, nos contrats, ils partent à 10%. Donc, et je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs, voilà, qui font la même chose en littérature. Donc, c'est vrai que le problème se pose un petit peu moins. Il y a d'autres sujets. Il n'y a pas que le pourcentage qui se pose. C'est aussi la rémunération de l'auteur pendant son écriture. Mais ça concerne la Valoir. Enfin, vous voyez, je dirais qu'en littérature générale, on est vraiment sur des terrains d'entente parce que ça se fait déjà, en fait. Voilà. Donc je crois que on mélange un petit peu l'ensemble des auteurs. Mais ça dépend vraiment des secteurs.
Denis Oliven, sur la rémunération des auteurs, est-ce que...
Il y a eu une étude très récente qui a été publiée par le SNE, parce que je pense qu'on a...
Syndicat national de l'édition.
Ouais, le syndicat national de l'édition. Parce que je pense qu'on a un certain nombre d'idées d'a priori qui sont pas toujours justes. Et qui montrait la répartition réelle des revenus de l'édition et qui montrait en gros que la part qui revient aux auteurs et aux éditeurs que les auteurs aujourd'hui ont plutôt de l'ordre de mémoire de 20% en moyenne du revenu généré par le livre, et la marge réelle des éditeurs, c'est plutôt de l'ordre de 5% une fois qu'ils ont enlevé leurs frais de distribution, etc. Donc je pense qu'on doit avoir sur ce sujet... Alors après, il y a une grande disparité, hein, tous les auteurs n'ont pas les mêmes droits. Bon. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une discussion fondée en raison, fondée sur les chiffres. Et je crois que c'est ça qui est en...
Aujourd'hui, c'est pas le cas dans les discussions?
Bah, j'espère qu'on va pouvoir le faire dans les discussions, c'est-à-dire se mettre d'accord sur les chiffres et montrer que la réalité de la rémunération des auteurs n'est pas du tout ce qu'on il y a quand même il y a l'image de l'éditeur qui absorbe une part énorme de la rémunération et qui exploite ses auteurs. Maintenant que je suis à l'intérieur et que je vois les chiffres, c'est pas tellement le cas, c'est pas tout à fait le cas. Donc alors après, est-ce que les discussions peuvent progresser? Oui, mais il faut qu'elles le fassent sur une base rationnelle.
On a commencé notre discussion ce matin par la lecture. Je voudrais qu'on la termine par les lecteurs. Le Figaro a révélé hier une étude commandée par le Centre National du Livre et confiée à Ipsos sur la pratique de lecture chez les 7-19 ans. Il s'avère que les 16-19 ans consacrent 1h25 par semaine à la lecture contre 5h10 par jour sur les écrans. Est-ce que, selon vous, cet état des choses est une fatalité sur la diminution du nombre de lecteurs, Muriel Beyer?
Alors, on voit qu'il y a un décrochage à 16 ans dans l'étude qui bascule à ce moment-là. Je pense que c'est quelque chose, voilà, de réel. Il y a les écrans, il y a beaucoup de choses que peut-être on n'avait pas quand on n'avait que la lecture. Je dirais que après, c'est une manière d'appréhender le livre. Le livre, c'est comme une gymnastique. Quand vous sentez que quelqu'un décroche, il faut lui dire, vous lisez une page tous les soirs, et puis finalement, vous allez reprendre une certaine habitude. Donc ça, c'est la première chose, c'est le rôle des parents, des éducateurs, qui le font plutôt pas mal, mais je crois qu'il y a ça aussi. Il faut voir que c'est quand même une tranche d'âge où ils sont sur les écrans, ils sont sur les réseaux sociaux, et vous avez le fameux terme populaire, c'est-à-dire qu'un élève qui lit beaucoup, il n'est pas très populaire, c'est mieux d'aller dire des imbécilités sur les réseaux. Donc, il y a vraiment toute une éducation à faire, mais il faut quand même relativiser, c'est une tranche d'âge. Voilà. Après, tout le travail, c'est après. Parce que cette tranche d'âge, bon, bah, ça va être un peu difficile, on peut toujours travailler, on peut toujours leur dire, voilà, il faut... Il y a une manière quand même peut-être de les récupérer pour montrer, je crois, ça c'est un de mes dadas, la modernité des grandes œuvres. Alors après, il y a une manière de le faire, voilà, je laisse l'Éducation nationale régler ce problème. Mais c'est une tranche d'âge, hein. Il ne faut pas non plus s'effondrer en disant, voilà, plus personne ne lit, c'est pas vrai.
Et Denis Oliven, est-ce qu'on ne se concentre pas un peu trop sur cette tranche d'âge au risque de les stigmatiser comme si le reste de la population, elle, était fervent de lecture?
Moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est un enjeu politique. Parce que vous voyez qu'il y a une énorme disparité selon la catégorie socio-professionnelle à laquelle vous appartenez. C'est du simple double. Donc si on laisse se creuser cet écart, on va laisser se creuser l'injustice sociale. Hein, c'est une bataille pour le livre, c'est surtout une bataille pour l'égalité d'accès, parce qu'on sait que le fait de lire ou de ne pas lire change votre rapport au monde, votre capacité de mobilité sociale, ne serait-ce que ça. Donc si on laisse creuser cet écart entre les enfants des catégories populaires qui ne liront pas et les enfants de la bourgeoisie qui liront, on fabrique les inégalités sociales de demain. Donc c'est pas simplement un enjeu de lecture, c'est un enjeu politique majeur que le système éducatif doit prendre en compte dans le pays qui a fait de l'égalité sociale sa matrice.
Merci beaucoup à tous les deux, Denis Olivienne et Muriel Beyer. Je rappelle évidemment que le Festival du Livre de Paris ouvrira ses portes ce vendredi et que France Culture y sera très très largement présente. Il est 8h44.